Galaxy 98.5.
Sur Radio Galaxy, on va parler de la prochaine conférence organisée par la Pub en Vol. Ce sera le mercredi 25 mars à Montesquieu-Volvestre. Et là, on va parler d'un phénomène qui touche essentiellement Internet et les réseaux sociaux. Il s'agit du complotisme en ligne. On va voir ensemble comment ces récits se propagent-ils, d'où ils viennent, pourquoi séduisent-ils autant et surtout, comment ne pas tomber dans le piège. Bonjour Pascal Marchand.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication. Vous serez le prochain conférencier. Alors aujourd'hui, le complotisme, c'est un terme qui revient souvent, mais c'est toujours bien de rappeler à quoi ça correspond. Dites-nous en plus de quoi il s'agit quand on parle de complotisme en ligne.
En fait, il s'agit d'informations qui proviennent souvent d'individus ou de groupes qui interprètent une réalité en fonction d'un objectif qu'ils ont au départ, qui est de produire une autre façon de voir un événement, un phénomène, un fait de société. Pour nous, le complotisme, c'est plutôt un processus qu'un contenu, hein, c'est-à-dire c'est la façon d'utiliser un certain nombre de médias, et notamment les médias en ligne, pour diffuser des informations qui sont des informations qui démentent une voie officielle et proposent une voie alternative.
Des fausses informations ou des rumeurs, hein.
Voilà, alors au moment où on les dit, ce sont des fausses informations ou des rumeurs. L'idée, c'est pas tant la réalité des faits que le processus de production, c'est-à-dire l'opposition par l'information à une voie officielle d'information. Dans certains cas, il peut y avoir des théories complotistes qui vont être avérées par la suite. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Pour nous, c'est pas trop ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une opposition, un conflit entre différents types d'informations et que ce conflit génère des tensions à l'intérieur de la société. Et ces tensions investissent les réseaux sociaux et peuvent produire ensuite du harcèlement, de l'agression en ligne, voire même de l'agression physique.
Et comment vous expliquez un tel essor des théories complotistes? Et est-ce qu'il existe un lien direct forcément avec les technologies numériques?
Oui et non. Les complotismes ou les rumeurs ont toujours existé, hein. Donc il y en a de très fameuses depuis l'Antiquité, et puis tout au XXe siècle avec Edgar Morin et la rumeur d'Orléans. Et puis actuellement, il y a beaucoup de contenus qui ont donné lieu à des rumeurs ou à des complotismes. On peut parler de l'assassinat de Kennedy, enfin bon, voilà. Donc c'est pas extrêmement nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'ampleur que ça peut prendre avec la communication en ligne, avec les réseaux sociaux numériques. Et donc là, effectivement, non seulement toute personne, tout individu est capable d'exprimer une opinion et de la diffuser largement, mais en plus, il y a des phénomènes d'augmentation, d'amplification de certaines opinions par le partage, par des algorithmes qui privilégient les contenus à forte tonalité dramatique, affective et conflictuelle. Et donc voilà, il y a une prise d'importance supérieure. Le phénomène lui-même n'est pas extrêmement nouveau, mais l'importance qu'il a prise est liée à l'apparition du Web 2.0, hein, donc des réseaux sociaux numériques et de la communication en ligne.
Et l'intelligence artificielle joue un rôle important?
L'intelligence artificielle, oui, elle joue un rôle en ce sens que derrière la promotion de certains contenus, il y a des algorithmes qui vont identifier les contenus qui vont être le plus à même de produire du partage, du clic, de la réaction en ligne. Donc de ce côté-là, il y a un certain nombre d'algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent promouvoir ces contenus. Mais encore une fois, le phénomène lui-même est un phénomène profondément humain et social. C'est-à-dire, c'est le besoin que certains ont de diffuser une information alternative à l'information officielle. Et quand je dis officielle, ça peut être une information de type politique, économique, etc., mais aussi une information de type scientifique. Donc s'opposer à une sorte de grand tout qui rassemblerait l'économie, la finance, la politique, la science, et voire même donc l'université, etc. Et donc tout ça, c'est ça l'essence du complotisme, hein, c'est d'imaginer que toutes ces organisations-là sont unies pour diffuser une information officielle qui est une information contre laquelle il faut s'élever et à laquelle il faut proposer une alternative.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux sont devenus une source d'information quotidienne, mais ces fausses informations ou ces fake news, comme on peut les appeler aujourd'hui, elles viennent d'où ? Il y a bien des personnes qui les créent et une volonté derrière tout ça ?
Il y a différents cas de figure, mais il y a des individus lambda qui peuvent diffuser une information et certaines peuvent être relayées et il n'y a rien d'autre derrière que l'expression d'une individualité, d'un état d'âme, d'un état d'esprit individuel qui s'exprime, qui trouve de l'écho. Mais il peut y avoir aussi, et ça on l'observe beaucoup plus en cybersécurité, une organisation de cette information, donc de cette contre-information, par des groupes qui peuvent être des groupes nationaux ou des groupes internationaux avec de l'ingérence internationale dans les opinions publiques nationales, notamment en période électorale ou en période de forte tension, où on va essayer d'affaiblir la parole d'un gouvernement auprès de son opinion en diffusant à l'adresse de l'opinion un certain nombre de fausses informations.
Manipuler l'opinion des gens, ça fait partie évidemment de ses volontés.
Oui, tout à fait. Ça produit de la déstabilisation et en période de conflit. Et là aussi, un phénomène qui n'est pas nouveau en soi, le phénomène de propagande, c'est-à-dire arriver à disqualifier une opinion gouvernementale en agissant directement sur l'opinion populaire, sur l'opinion publique, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, mais avec les réseaux sociaux, et alors là aussi pour le coup avec de l'intelligence artificielle, ça a deux effets. Le premier effet, c'est que ça augmente considérablement l'impact, donc le nombre de personnes touchées et la façon de constituer une opinion alternative. Et puis la deuxième, c'est en termes de réalisme, puisque l'intelligence artificielle est maintenant capable de produire des produits d'information qui ont la même apparence, le même réalisme qu'une information officielle.
Et ouais, justement, en parlant de réalisme, j'allais vous demander qu'est-ce qui fait que ces fausses informations peuvent paraître crédibles pour certains, mais justement, ce fameux réalisme peut jouer.
Alors, il y a là aussi deux choses. Le réalisme joue, c'est évident. Et puis, il y a les attentes, c'est-à-dire que, quel que soit le réalisme, il arrive dans une société, dans un état d'esprit qui n'est pas neutre, qui n'est pas une table rase, qui est déjà lui-même traversée par un certain nombre de conflits et de tensions. Et donc, quand on produit une information qui confirme ce que les gens attendent, elle a d'autant plus d'impact. Donc voilà, le réalisme de l'intelligence artificielle y fait, c'est évident, mais il ne faut pas négliger aussi que ça marche parce que les gens attendent des informations de ce type-là, parce qu'eux-mêmes sont en réaction contre une ligne gouvernementale, contre un état social, et donc ils vont aussi se nourrir de ces informations-là. Et avant qu'il y ait un tel réalisme, on avait la même chose, c'est-à-dire même des informations qui ne paraissaient pas crédibles étaient acceptées par une partie de l'opinion parce qu'elles venaient rencontrer, confirmer un certain nombre de leurs attentes, de leurs besoins et de leurs motivations.
Et puis on le voit, en traînant sur les réseaux sociaux, ce sont souvent des contenus qui choquent ou qui suscitent des réactions.
Oui, la dramatisation, c'est-à-dire l'appel à l'émotion, à l'affect, est effectivement l'une des façons d'abord d'attirer au maximum l'attention des gens. Notre attention est mobilisée par des contenus à forte tonalité émotionnelle, affective, etc. Et puis en plus, en dehors de l'attention elle-même, ça permet la mémorisation de l'information. Une information qui est soigneusement mise en scène au niveau émotionnel et dramatique a beaucoup plus de chances de frapper les esprits et d'entrer durablement en mémoire qu'une information qu'on pourrait dire purement cognitive, intellectuelle, à base de raisonnement, de démonstration, de données, qui a beaucoup moins de chances d'impacter effectivement la mémoire des gens.
Est-ce que tout le monde peut tomber dans le panneau ou est-ce qu'il existe un profil type ou des profils qui sont plus vulnérables ?
Non, tout le monde peut tomber dans le panneau. Je commence quelquefois certaines interventions par des cas en disant, bien sûr, on a beaucoup parlé de l'affaire de Anne et le faux Brad Pitt et on s'est beaucoup plus moqué de la victime qu'on a condamné les agresseurs. en disant « elle devait être bien bête et moi ça ne m'arriverait jamais ». Mais quand on regarde un petit peu les dernières victimes, notamment d'opérations de hameçonnage, de phishing, c'est-à-dire les mails qu'on reçoit et qui essayent de nous faire cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe pour ensuite installer un logiciel malveillant, par exemple, ou nous extorquer un certain nombre de données confidentielles, eh bien, en fait, il y a des gens très, très avancés au niveau politique et économique qui se sont fait avoir par des manips de cet ordre-là, y compris un ancien ministre du numérique qui s'est fait avoir par un phishing, donc des chefs d'entreprise, etc. Donc voilà, c'est tout le monde est concerné. Et j'allais dire, plus on pense qu'on n'est pas concerné, plus on est vulnérable aux attaques informatiques à l'heure actuelle.
Si vous deviez résumer une théorie complotiste en trois ingrédients essentiels, quels seraient ces trois ingrédients pour créer une bonne théorie complotiste, comme on les aime ?
Il faut qu'elle soit ancrée dans une tension actuelle, hein. Il faut qu'elle réponde à un besoin d'information. Mmh. Il faut qu'elle ait une forte tonalité émotionnelle, affective, dramatique. Et puis, il faut aussi qu'elle permette aux gens d'exister en tant qu'identité, en tant que groupe. Hein, très souvent, derrière les attaques informatiques et les attaques informationnelles, ce qu'on appelle maintenant la guerre informationnelle ou la guerre cognitive, il y a l'idée d'identité, hein, c'est-à-dire resserrer les gens autour d'une appartenance, valoriser cette appartenance. Mmh. Donc, voilà à peu près les trois que je mettrai en avant.
On est avec Pascal Marchand, qui est professeur en sciences de l'information et de la communication. On est en train de parler du complotisme en ligne pour la conférence de la Pupe en vol le 25 mars à Montesquieu. Question simple, mais question essentielle. Comment faire la part des choses et quels sont les premiers signes qui doivent nous alerter face à un contenu potentiellement faux, Pascal Marchand ?
Alors, déjà, peut-être l'une des premières choses et les plus simples et les plus dangereuses, c'est la pression temporelle. Alors ça, c'est un résultat qu'on a avec un de mes doctorants, hein, qui s'appelle Anthony Dalmière et qui va soutenir sa thèse au printemps, là, et qui a travaillé justement sur le hameçonnage et qui montre un certain nombre de techniques que les gens peuvent mettre en place pour nous amener à faire quelque chose qu'on ne voudrait pas faire ou à croire quelque chose qu'on ne voudrait pas croire. Et l'une des premières choses qu'il met en évidence, c'est la pression temporelle. Donc l'une des choses qui doit nous inquiéter, c'est quand quelqu'un nous dit qu'il faut faire quelque chose vite, prendre une décision vite. Parce que si on ne le fait pas tout de suite, on va passer à côté d'une opportunité ou on va prendre un risque, etc. Donc, dès que quelqu'un nous demande d'aller vite dans une prise de décision, on doit avoir un petit clignotant qui doit s'allumer. Et puis après, il y en a d'autres. Hein. Il y a est-ce qu'on nous fait miroiter quelque chose ? Est-ce qu'on agit sur notre désir ? Est-ce qu'on agit sur notre culpabilité ? Est-ce qu'on essaye de nous faire faire une petite chose qui n'a pas l'air importante, sachant que derrière, il va tout de suite y avoir une autre chose un peu plus importante et on va rentrer dans une escalade de comportement. Voilà, il y a tout un tas de techniques. Pour tout vous dire, hein, dans un inventaire, on en a trouvé une quarantaine de techniques comme ça qui peuvent nous amener à cliquer ou à croire à quelque chose. Donc, quelquefois, c'est simple. Quelquefois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais j'allais dire simplement, ne nous pressons pas avant d'effectuer une action en ligne. Prenons le temps d'analyser les choses. Pourquoi est-ce que je reçois ça ? Pourquoi c'est moi qui le reçois ? Pourquoi je le reçois maintenant ? Parce qu'un certain nombre de malveillants connaissent bien les moments de vulnérabilité qu'on peut avoir. Donc, voilà. La question, c'est ça. C'est peut-être prendre son temps et réfléchir un petit peu avant d'agir.
Voilà, prendre le temps et demander conseil. Hein, si on a des amis ou des proches qui sont autour de nous, ça peut aider, on ne sait jamais. En tout cas, pour en savoir beaucoup plus, c'est une conférence à ne pas manquer sur le complotisme en ligne qui se tiendra le mercredi 25 mars à 20h à la salle polyvalente de Montesquieu-Volvestre. C'est ouvert à tous avec une entrée libre et gratuite. C'est organisé par la Pup en vol. Dernière question, Pascal Marchand, qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne de cette conférence ?
Peut-être ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'information est devenue un marché concurrentiel et nous sommes tous vulnérables aux fausses informations. Donc soyons clairvoyants sur les informations que nous recevons. Ne nous précipitons pas pour soit nous enflammer sur une information, soit cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe. Mmh. Et puis comme vous le disiez, réfléchir d'une part et puis discuter. avec nos entourages de ce qui vient de nous arriver, c'est peut-être la meilleure façon de se prémunir contre les tentatives de désinformation ou de malveillance numérique.
Et en tout cas, je trouve ça hyper important de pouvoir s'en informer. Aujourd'hui, on est dans une ère numérique où tout devient de plus en plus connecté et pas pour autant sécurisé, en tout cas du côté des fausses informations. Rendez-vous mercredi 25 mars à 20h, salle polyvalente de Montesquieu. On vous remercie, Pascal Marchand.
Mais merci à vous.
Et une très belle journée.
Mais pareillement, et à très bientôt.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.